Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission qui vous propose des échos des rencontres du légendaire qui se sont déroulées les 9 et 10 novembre dernier, des rencontres organisées dans le cadre du Festival du Légendaire. L'édition 2019 était celle des 20 ans de cet événement eurélien organisé bien sûr par la compagnie AMSA, événement qui vous permet chaque année d'explorer le conte et l'imaginaire sous toutes ses formes. Radio Grand Ciel était partenaire des rencontres de l'imaginaire et a assuré la captation sonore des tables rondes proposées au cours de ce week-end. Le thème du festival 2019 était la métamorphose. Et tout de suite, nous retrouvons une nouvelle table ronde qui a pour sujet les métamorphoses dans les contes merveilleux. Pour en débattre, Monique Baqueta des éditions La Fontaine de Pierre, Muriel Bloch, conteuse, et Bernadette Bricou, enseignante-chercheuse à l'Université Paris 7. Pour mener les débats, nul autre que Jean-Rodolphe Turlin, auteur spécialiste et amoureux de l'œuvre de Tolkien, une voix bien connue des auditeurs de Radio Grand Ciel. Bonne écoute.
Eh bien, merci à tous d'être présents. Nous allons donc échanger sur la question de la métamorphose, les métamorphoses dans les contes merveilleux. Les métamorphoses, elles ont une place de choix dans les contes merveilleux, dans les contes féeriques. Elles sont souvent le récit d'humains qui connaissent une transformation en animal ou en créature fantastique, en créature surnaturelle ou l'inverse. Mais ça peut être aussi la métamorphose, le fait d'une transformation de l'humain au cours d'une quête où il connaît un ennoblissement, un changement de son statut. Donc nous allons échanger de tout ça. C'est une introduction rapide pour essayer de regagner du temps et puis d'épargner la voix de votre serviteur qui, je l'espère, tiendra jusqu'au bout de ces échanges. Alors pour évoquer ce sujet, il était prévu que nous ayons 4 invités, donc je tiens à excuser d'emblée Madame Jacqueline Kellen qui est souffrante et qui n'a pas pu se joindre aux rencontres du légendaire ce week-end. Donc nous travaillerons sans sa présence. En revanche, nous avons avec nous 3 autres invités prestigieux que je vais vous présenter. Alors, Madame Monique Baqueta, vous êtes traductrice, éditrice. Vous dirigez avec votre mari les éditions La Fontaine de Pierre, qui est spécialisée dans les ouvrages de et sur Jung. Et cette édition permet à tout le travail de Jung d'être connu du public francophone.
Tout à fait. Et notamment, beaucoup d'ouvrages ont été consacrés aux contes de fées et à la similitude qu'on peut trouver entre les contes de fées et les rêves et tout ce qui émerge de l'intérieur d'une personne qui se situe dans son inconscient. Donc, si vous voulez, c'est cette similitude entre les contes et le langage des rêves et de l'inconscient qui est un peu au centre de nos éditions. Voilà.
Merci beaucoup. Madame Muriel Bloch, vous arrivez d'Abidjan. Donc merci beaucoup de nous rejoindre pour ce week-end des rencontres du légendaire. Donc vous êtes auteur, vous êtes conteuse, vous êtes collectionneuse de contes. Vous travaillez sur le conte depuis de très nombreuses années. Vous avez publié un très grand nombre d'ouvrages.
Oui, auteur non, dans le sens où moi je crée peu de contes. Je pense que c'est très très compliqué de créer un conte qui est justement qui se métamorphose au cours du temps. Donc il en faut beaucoup beaucoup. Donc je suis une sorte de recycleuse un peu ou de brocanteuse.
De passeuse.
De passeuse, oui, 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 de contes de différentes cultures.
Et puis Bernadette Bricou, spécialiste de littérature orale. Vous êtes professeur de littérature à Paris 7, Denis Diderot.
Oui.
Voilà, votre présence ici se justifie pleinement puisqu'on est dans la continuité d'une table ronde que nous avions fait ensemble hier et dans la continuité de la conférence sur Cendrillon les visages de Cendrillon et ses métamorphoses.
C'est ça.
Que nous pourrons réévoquer tout à l'heure, si vous le voulez bien. Alors, voilà, donc une petite introduction, une présentation des auteurs dans un mode tout à fait sobre, pour que la métamorphose de ma voix ne soit pas trop préjudiciable à cet échange. Alors, je voulais aborder tout d'abord avec vous trois l'origine de la métamorphose. On sait que le mot métamorphose vient du grec métamorphosis, qui signifie transformation. C'est un mot qui a été popularisé par le poète Ovide à partir du 1er siècle de notre ère, mais il y avait déjà des métamorphoses avant Ovide. C'est pas Ovide qui a inventé ni le concept ni la métamorphose. On retrouve des situations de transformation, de métamorphose, déjà chez Homère avec l'épisode de Circé qui transforme les compagnons d'Ulysse. Donc c'est une métamorphose qui n'est pas voulue par les personnages, elle est provoquée par l'enchantement de Circé. Est-ce qu'on a d'autres exemples de métamorphoses qui remontent à la plus haute antiquité, voire ailleurs ? Muriel Bloch.
Il y a une métamorphose que j'aime beaucoup qui est relative à Héraclès quand il a accompli ses fameux 12 travaux décidés par les dieux pour effacer l'immense chagrin qu'avait été le meurtre de sa femme et de ses enfants sous les auspices d'Héra. Il est enfin apaisé de cet immense chagrin. Il a travaillé beaucoup à des tâches quasiment impossibles. Et sur le chemin du retour, il y a un petit caillou là sur sa route. Alors il donne un coup de pied dans le caillou, puis le caillou devient une pierre. Alors ça l'étonne. Il bute de nouveau la pierre et la pierre devient colline. Alors là, il donne un coup vraiment énorme sur cette colline qui se change en montagne. Alors là, c'est tout le corps d'Héraclès qui affronte cette montagne, qui grandit en chaîne de montagne. À ce moment-là, il entend un rire et il se retourne et il y a son vieil ami Atlas qui est là, avec le monde sur son dos, cette chaîne de montagne qui rit, et ce rire devrait être un rire extraordinaire. Et Héraclès comprend pas, il lui dit, mais enfin, pour que tu ris, je suis là, je comprends pas, il y avait un petit caillou, puis c'est devenu une pierre, et puis une colline, et puis une montagne, et puis là, je me cogne, je sais pas contre quoi. Et ben justement, je vais t'expliquer, lui dit Atlas, ce contre quoi tu te bats, c'est l'esprit de la discorde. Plus tu vas frapper, plus il grandira. Alors fiche-lui la paix, laisse faire, laisse tranquille, et tout restera au plus calme, au plus heureux, pour toi et pour le monde. Et puis Atlas disparaît. Alors Héraclès se détache de la montagne et petit à petit, la montagne redevient colline, et de colline, elle redevient pierre, et de pierre, caillou, puis caillou, juste grain, sable, poussière sur le chemin d'Héraclès. Et l'histoire antique dit que c'est seulement à ce moment précis qu'il a été enfin et totalement apaisé.
Merci beaucoup. Monique Braquetta.
Moi, je pensais à la métamorphose de Protée. Protée se transforme sans cesse en quelqu'un d'autre. On ne peut pas l'attraper immédiatement. Plouf, il devient autre chose. Il se transforme dès qu'on cherche à le saisir. Il n'est plus là. Et c'est une image très très forte des images qui peuvent surgir de l'inconscient. Si vous avez une image qui surgit de l'inconscient et dont vous voulez comprendre le sens véritablement, il faut faire comme on a dû faire avec Protée, c'est-à-dire l'enchaîner pour qu'il puisse nous donner sa vérité et qu'il puisse nous dire ce qu'il sait. Si on laisse passer l'image de l'inconscient qui vient à la conscience, elle s'en va et aucune transformation de l'être n'est possible à ce moment-là. Et on se retrouve dans une sorte de rêverie, j'allais dire infernale, c'est pas vraiment ça, parce que ça peut être assez agréable, mais où les images se succèdent les unes aux autres sans qu'on puisse en saisir le sens. Et cette image de Protée, je trouve, est très porteuse d'une réalité pour nous tous, dans le sens de pouvoir ne pas laisser filer les intuitions qui nous viennent de la profondeur.
Merci. Bernadette, vous voulez dire un mot sur...
Oui, d'abord peut-être sur le poème d'Ovid, qui nous rappelle que la métamorphose est inséparable de la vie. Et en réfléchissant à votre question, c'est vrai qu'on sera tenté de rechercher dans les textes anciens, dans les textes les plus anciens de l'humanité, des récits de métamorphose. Mais on peut se dire que si, comme on le pense, comme d'aucuns le pensent, le récit oral qui circule à l'intérieur d'une communauté a été là pour répondre à des questions sans doute, mais aussi pour conjurer des peurs à l'intérieur d'un monde qui était inconnu et perçu comme menaçant, alors on peut imaginer, et d'ailleurs tous les grands récits cosmologiques nous le disent, que la métamorphose est inséparable de la naissance du récit. On peut penser que les premiers contes ont peut-être été... naturellement, nous sommes là dans la spéculation, puisqu'on se réfère à la nuit des temps et à la nuit des temps de l'oral, c'est-à-dire de cette source obscure d'où nous viennent les histoires. Mais on peut penser que les premières histoires, les premiers récits, ont peut-être été créés par les hommes pour répondre à des questions du type « si le soleil ne revenait pas ». Et quand le jour succédait à la nuit, est-ce qu'on n'avait pas affaire à une métamorphose ? Vous avez dit très justement dans votre introduction, changement de structure, changement de nature, mais changement aussi d'apparence. Le cycle des saisons, d'ailleurs le poème d'Ovide nous le rappelle, au fond n'est qu'un récit de la métamorphose. La vie même est métamorphose. Donc il me semble que la métamorphose est inséparable de l'origine même des récits.
Et de la nuit.
C'est vrai, et de la nuit.
Du coup, on a une variété de types de métamorphoses, on les a évoqués, la transformation du caillou jusqu'à la montagne dans le récit d'Hercule, des transformations propres aux héros de l'Antiquité. Voilà, bon, ces variétés de modèles de métamorphoses, ils veulent tous dire quelque chose de différent. Quelle est la symbolique de ces modèles différents métamorphoses, outre le fait que leur point commun... c'est qu'ils sont inséparables des cycles de la vie
Et moi, je dirais aussi du désir, parce que quand vous évoquiez la figure de Protée, m'est venue celle de Thétis, qui pour échapper au roi Pélée, cherchant, épiant la nymphe Thétis, elle lui échappe sans cesse, parce qu'elle change de forme sans cesse, et il y a une sorte de joute amoureuse, au fond, et... Les contes merveilleux reprennent ce motif dans les courses-poursuites, enfin on n'y est peut-être pas encore, du fameux motif de métamorphose pour échapper à la mort. Ou c'est une joute de grand savoir dans tous les contes du type l'apprenti sorcier. Oui. Quand l'élève devient plus fort que le maître, c'est toujours sous la forme d'une joute de métamorphose, et pas n'importe lesquelles, qui sont reliées aux quatre éléments, au cosmos. Donc c'est vraiment l'homme et l'univers, là, je crois, la relation à la métamorphose. C'est pour ça que j'aimais bien partir du caillou pour arriver à la montagne, et encore davantage. Et dans tous les mythes de création, il me semble, en tout cas dans l'hémisphère sud, au Brésil, on raconte la création de la nuit qui n'existait pas, encore, donc le jour était absolument infernal, la fatigue était extrême, et parce que la nuit était retenue prisonnière. Et lorsque la nuit recouvre le monde, alors seulement la métamorphose et le monde commence à exister. Les animaux et les êtres humains occupent les places qu'ils occuperont dorénavant, une fois que la métamorphose a eu lieu avec la création de la nuit. En tout cas, c'est comme ça dans l'hémisphère sud.
Je pensais, en évoquant la métamorphose, et vous le disiez à propos de la nuit et du jour, c'est que la métamorphose appelle aussi son contraire, toujours. Et en fait, on a, si on prend la métamorphose comme étant une des facettes du mouvement, l'envers de ça, c'est l'immobilité. Et on sent dans la psyché ce besoin à la fois de mouvement et d'immobilité. L'immobilité pouvant être l'axe, le besoin de sécurité, le centre ou le point fixe, alors que la mouvance représente la possibilité d'évolution et de changement vers quelque chose de plus global. Mais dans les contes, on voit très très souvent au début du conte une situation de blocage qui montre justement qu'il y a quelque chose qui s'est rigidifié ou qui s'est pétrifié. On voit dans les contes la pétrification qui revient très très souvent. Et
la fontaine de pierre.
Voilà. Et voilà, exactement. Mais je crois que ce côté d'antagonisme me parle personnellement beaucoup. Mais je crois qu'il y a vraiment cet aspect de dépasser une situation figée où quelque chose n'arrive plus à évoluer dans la société. Par exemple, dans les contes, le roi, une image par excellence, c'est le roi malade ou le roi mourant ou le roi qui est vieilli. Les valeurs de la société et du temps sont vieillies et il y a besoin qu'un jeune prince ou un jeune homme prennent le relais et partent à l'aventure pour justement changer, transformer ce qui n'était plus d'actualité. Et on trouve ensuite, me semble-t-il, aussi chez les héroïnes, parce que là je parle du prince, mais chez les héroïnes qui sont sous le joug soit de la marâtre, soit du père un peu trop envahissant, le besoin aussi de partir et de vivre leur propre vie, de telle sorte que non seulement elles en tant que femmes, mais que les valeurs féminines d'une société puissent être mieux reconnues. Et ça, je trouve important de mettre en parallèle le côté de besoin d'évolution et de changement dans une société aussi.
Et du coup, cette opposition entre les choses figées et la métamorphose, on le retrouve dans des contes merveilleux, et je pense à Cendrillon notamment.
Oui, mais la rigidité sur laquelle vous insistez, le carcan dont il faut sortir, qui peut être un carcan simplement d'immobilité, vous aviez raison d'évoquer la pétrification, ça c'est une forme très forte bien sûr, mais parfois c'est simplement une espèce d'arrêt sur image, comme dans le château de la Belle au bois dormant, quand tout s'endort pour une période très longue. Et puis il y avait ce que Muriel disait du désir, et au fond... spontanément, vos deux réflexions m'amenaient à la réflexion suivante. Si on simplifiait beaucoup dans les contes merveilleux, je serais tentée non pas d'opposer, mais peut-être de mettre en résonance deux vecteurs de la métamorphose. Il y a le vecteur de la métamorphose qui est celui, au fond, placé sous le signe de la révélation. Il est inscrit dans l'instant. Alors, vous parlez de Cendrillon. On va prendre un exemple, évidemment, qui est l'exemple de la fée marraine, mais il y en aurait d'autres. La fée marraine va frapper d'un coup de sa baguette la citrouille qui deviendra carrosse, ou les vêtements de Cendrillon qui deviendront splendides. Et au fond, la métamorphose, elle est inscrite dans l'instant, elle est abrupte, elle est visible. Il y a une espèce de changement qui pourrait être, puisque Muriel parlait de la nuit, ce serait comme une espèce de lumière, un flash. Brusquement, le monde est changé. Vous savez, comme dans ces émissions aujourd'hui, pardonnez-moi de mettre en relation des images qui sont celles de la télévision, mais vous savez, la fin des émissions de relooking extrême, quand le rideau s'ouvre et que paraît une femme qui, ou un homme, tellement transformé par les régimes qu'il a suivis que nul ne le reconnaîtra, pas même sa femme et ses enfants. Et donc, on peut penser que c'est un gibier pour le psychanalyste ensuite. Bon, mais là, c'est vraiment la révélation brutale. Et puis moi, il y a une métamorphose qui m'intéresse beaucoup plus dans les contes, même si on ne met pas spontanément l'accent sur elle. C'est une métamorphose qui est inscrite dans la durée et qui fait que l'on se transforme. Un peu, vous savez, comme dans la cristallisation amoureuse de Stendhal, il faut du temps pour évoluer. Et on a ça aussi dans les contes. Et là, je crois que ce que disait Muriel est très juste. Elle parlait de désir, moi je parlerai d'amour. Le premier vecteur de transformation ou de métamorphose dans les contes, c'est le regard de l'autre. Et il y a un exemple magnifique de cela, bien sûr, c'est Riquet à la houppe. Riquet, qui vous en souvenez, est très laid. À sa naissance, c'est un gnome. Il est tellement hideux que même ses parents seraient tentés de le repousser. Mais il est très intelligent et il va être confronté dans ce jeu d'association à une princesse très belle et très sotte. Et au contact l'un de l'autre, on va s'apercevoir que non seulement Riquet n'est plus si laid, mais que peut-être il devient beau dans le regard de l'autre. Et de la même manière, la princesse va acquérir une dextérité, une subtilité qu'elle n'avait pas. Ça, je trouve que c'est une des grandes leçons du conte. La poésie le dit autrement. Nous sommes dans une société qui cultive le jeunisme. Vous le savez bien, vous qui êtes très jeune ou qui l'êtes moins, on nous explique qu'en tout cas la lutte contre le temps, les lignes anti-temps, etc. sont le combat de la vie. Et Lamartine, dans un poème à Elvire, le disait autrement, et je trouve que c'est un vecteur de métamorphose. « Quand tu verras ternir ta ravissante image, écrit-il à l'aimé, regarde dans mon cœur, là, ta beauté fleurit pour des siècles sans nombre. » Eh bien, moi, je trouve que c'est aussi une des leçons du conte merveilleux que de nous dire que la meilleure arme contre la rigidité dont vous parliez, madame, c'est peut-être le désir et l'amour, en tout cas comme vecteur de métamorphose. Mais ce sont des métamorphoses, vous voyez, obscures, sous le couvert.
Pour appuyer ce que tu dis, la seule chose, c'est que je ne suis pas d'accord sur Riquet à la houppe, parce que Riquet à la houppe pointe une inégalité regrettable, c'est que si l'intelligent Riquet n'avait pas tant aimé la belle, elle n'aurait pas, elle, connu cette métamorphose. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevée petite fille en pensant ce que ma mère m'avait appris, c'est-à-dire que forcément les stars de cinéma, les plus belles femmes du monde, étaient nécessairement idiotes et que quand on était très laid, on était nécessairement intelligent et que le monde était ainsi fait qu'on ne pouvait pas en bouger. En fait, c'était impossible. Il fallait que l'intelligence donne à la beauté et c'était parfaitement injuste puisque dans le conte de Riquet à la houppe, elle a une sœur qui, oui, malheureusement, a l'intelligence mais pas la beauté. Donc là, c'est pas le sujet, mais quand même, la métamorphose ne marche pas toujours en réciprocité. Hein. Oui. Mais j'aurais voulu donner un exemple, du coup, sur ce que tu dis de l'amour et de la métamorphose, même je dirais, au temps de l'enfance. Il y a un conte de Grimm merveilleux qui s'appelle « Voler trouvé », où un enfant porte ce nom parce qu'un homme n'en est pas le père, mais c'est lui qui l'a trouvé. Or, le père a une fille qui n'est pas n'importe qui, puisque probablement elle a été élevée par une femme qui a des pouvoirs. Donc le jour où cette femme ayant des pouvoirs qui sert de nourrice au sein de cette famille où le père est veuf, un jour, la petite surprend la cuisinière en train de faire bouillir de l'eau et demande « Mais qu'est-ce que tu nous prépares de bon à dîner ce soir ?» Et la vieille dit « Du volet trouvé, en ragoût, on va bien se régaler. » Et là, l'enfant, la fille qui s'appelle Linette, va voir le petit, l'enfant, le petit frère, l'enfant trouvé, le volet trouvé, et elle lui demande « Est-ce que tu m'aimes ?» C'est la question récurrente tout au long de ce conte, qui est déjà un conte merveilleux, où seule la réponse du petit frère, lorsqu'il dit à sa sœur « Mais oui, je t'aime, bien sûr, mais est-ce que tu me quitteras un jour ?» Et il lui répond « Mais non, je ne te quitterai pas, ni aujourd'hui, ni demain, jamais je te quitterai. » Alors et alors seulement, elle lui dit « Change-toi en rosier, et moi je deviendrai la plus belle rose de ce rosier. » Et ce motif-là, on le trouve à l'échelle de l'enfance, enfin déjà chez Grimm, mais ce motif des métamorphoses amoureuses pour échapper à la mort, à la poursuite en général d'un être ayant le pouvoir, ça peut être le père, la mère, sorcière ou comme ça, c'est un motif qui revient tout le temps, et qui est lié, ces métamorphoses sont prises dans un temps court qui est celui de la fuite, c'est-à-dire que c'est une espèce de raccourci où la métamorphose qui devient un temps d'arrêt pour échapper à la mort certaine des personnages. Mais déjà à l'enfance, cette petite phrase « Est-ce que tu m'aimes ?» Ah non, enfin oui, mais est-ce que tu me quitteras ? Non, jamais. Eh bien alors, change-toi. Ensuite, c'est une église et des métamorphoses qui ont toujours une signification, bien entendu.
Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, et vraiment juste pour répondre à Muriel, qui me le permettra au regard d'une longue familiarité, oui, Riquet à la Houppe révèle à la princesse qui est présentée comme figée dans l'inintelligence une intelligence qu'elle n'aurait pas sans lui, mais la beauté de Riquet ne serait pas révélée au monde sans le regard aimant. Donc, pour moi, je pense que cette beauté, elle peut exister chez Riquet à l'intérieur, mais c'est quand même quelqu'un dont l'apparence même, à la naissance, il y a vraiment des versions où il est couvert de pustules, c'est quelqu'un dont on s'est détourné avec horreur. Et il ne sortira de là que par les yeux de la femme qu'il aime. Donc, il me semble que, bon, l'un révèle l'autre. Voilà, c'était juste...
Muriel, vous évoquiez la métamorphose comme un temps d'arrêt avec cet exemple. La métamorphose, elle peut être aussi quelque chose qui s'inscrit dans une forme de fluidité. On a hérité de Jung des figures archétypales qui nous présentent justement l'évolution de certains personnages dans le conte merveilleux. Et ces métamorphoses, elles sont progressives. C'est-à-dire que là, pour le coup, elles ne représentent pas des temps d'arrêt, mais elles sont dans la continuité du conte et de l'évolution de personnages.
De personnages. Mais c'est-à-dire que ça, on le voit très très bien dans les rêves, le fait que un rêve, on appelle un autre et l'évolution de la personne petit à petit se fait comme étant presque étape par étape. Il est à noter, en tout cas pour ce qui concerne l'évolution individuelle à travers les rêves, que pour chaque personne, il y a des tours et des détours qui sont complètement différents. C'est-à-dire que, et c'est en cela que le rêve peut avoir quelque chose de merveilleux, c'est qu'il est le reflet même de la nature profonde de la personne et qu'il amène la personne à évoluer pour comme être en lien le plus direct possible avec sa nature propre. Et si on prend le parallèle avec les contes, je pense par exemple aux ensorcellements ou aux sorts que l'on jette à quelqu'un qui se transforme, disons, en animal et qui, sous le coup de cette transformation, ne peut être racheté, qu'il y ait une rédemption, si on peut utiliser ce mot, à travers une rencontre favorable, à travers l'amour aussi, justement très souvent l'amour, qui, même si l'apparence physique extérieure n'est pas belle ou adéquate, la beauté de l'âme transparaît. Et ça, c'est quelque chose justement que l'on voit de façon très très visible, mais qui se met sur un temps très long, comme vous le disiez. C'est plus la transformation brutale d'une facette et spectaculaire d'une facette à l'autre, mais c'est une très très lente évolution. Et là, je pense que c'est intéressant aussi de parler du temps du rêve ou du temps du conte ou du temps de l'inconscient. En fait, on entre là dans un univers qui n'est pas le temps de la rationalité et le temps du conscient, mais on est soit dans un éternel présent, soit dans une évolution très 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 lente et qui d'ailleurs pour les contes par rapport à l'évolution de la société peut se faire sur plusieurs générations.
Et vous évoquiez les métamorphoses, pour le coup puisqu'on parlait jusqu'à présent de métamorphoses plutôt heureuses, bénéfiques, qui avaient un sens heureux, et là vous avez évoqué des métamorphoses qui n'en avaient pas. La transformation subie. J'avais cité l'exemple de Circé qui transformait les compagnons d'Ulysse au début de notre échange. On a plein d'autres exemples comme ça. Je pense comme ça à la volée au loup-garou, par exemple, la transformation maléfique par excellence qui est subie par le personnage. Qu'est-ce qu'elle représente, ces transformations maléfiques? C'est métamorphose.
Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a deux types de métamorphose, soit du monde humain vers le monde animal ou végétal, type un homme devient un arbre ou une femme devient oiseau ou serpent, mais inversement, quand le monde animal devient métamorphosé en humain, que ce soit les... alors là, en général, le conte finit mal. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, nous humains, probablement en mesure de frayer tant que ça avec l'autre monde. Ou alors, il faut respecter les règles de l'autre monde. Et nous sommes humains parce que justement, nous ne respectons pas les règles de l'autre monde, la transgression étant notre fort. Combien de contes où la notion de secret, tant que tu ne me poseras pas de questions sur de qui je suis, d'où je viens, ou tu ne diras pas ceci ou cela, tout ira bien entre nous. Ne cherche pas à savoir qui je suis, d'où je viens. Et à cette seule condition, ma métamorphose pourra durer. Elle sera acquise. Or, elle est rarement acquise. Et souvent, ces contes-là, qui sont des contes merveilleux, se terminent mal.
Mélusine et les Rémondins, par exemple.
Oui, mais on pensait, bien sûr, les récits mélusiniens et la part du secret, ne pas dire, ne pas voir, ne pas voir, ne pas dire, souvent les deux sont liés. Et je trouve qu'il y a, moi je suis très sensible aux résonances, donc entre ce que vous disiez madame et ce que vient de dire Muriel, il me semble qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est, on parlait du clair-obscur, il y a quelque chose qui est d'abord de l'ordre du secret. Et souvent, bien sûr, le secret transgressé donnera lieu, pour Mélusine, à un départ définitif, ou pour celui qui était loup-garou et dont on va révéler le secret, alors qu'il va enlever sa peau pour la dernière fois, le voilà loup pour toujours, rejeté dans l'autre monde. Donc ça, c'est évidemment une des grandes fonctions du conte, nous apprendre, disait Henri Pourrat, le savoir-vivre vis-à-vis du monde invisible. On ne traite pas le monde invisible n'importe comment. Il y a des règles et qu'il nous faut apprendre. Mais il y avait autre chose, madame, dans ce que vous disiez qui m'a fait réfléchir. C'était aussi le temps nécessaire qui est présent dans les contes pour comprendre ce qui se joue et parfois même la métamorphose qui a eu lieu. C'est-à-dire que très souvent, vous parliez du temps du rêve, eh bien on a des personnages, et c'est souvent mal compris, qui vont avoir besoin, une révélation a eu lieu, une métamorphose a eu lieu quelque part, un message leur a été transmis, et alors là on nous dit, le prince, c'est souvent un prince, c'est souvent un homme, le prince réfléchit à ce qu'il venait d'entendre. Il s'enferma dans son château et y resta 8 jours. Et alors, en règle générale, les étudiants nous disent, dis donc, il lui faut du temps pour comprendre. Voilà 8 jours qu'il est en train de méditer la révélation qui vient de lui être faite. Et au bout de ce temps, qui est un temps de décantation, un temps de latence, un temps où la vérité se fait jour, alors il peut sortir de ce que vous appeliez la rigidité ou l'immobilité pour agir enfin. C'est ce qui se passe notamment dans un certain nombre de versions de Cendrillon. Quelquefois, il y a des oiseaux ou des enfants qui, sur le chemin, alors qu'il emmène avec lui la fausse fiancée, lui révèle l'erreur qu'il est en train de commettre, il entend... Tu prends la laide et tu laisses la belle est sous la cuve à lessive, par exemple, il rentre chez lui, il va lui falloir un temps assez long de décantation pour en tirer les leçons. Et quand la lumière s'est faite, alors il peut revenir à la vie et il peut agir. Et très souvent, ça donne lieu, vous savez, à des lectures au premier degré qui nous disent « mais enfin, ce prince est un imbécile, enfin, il lui faut 3 jours pour comprendre ». Mais je dis « mais parfois, il nous faut une vie ». Pour comprendre celui qui nous est destiné. Et c'est aussi de ça que nous parle le conte, ou simplement pour arriver à nous rendre à l'évidence, une métamorphose a eu lieu et un être a changé. Donc moi je suis très sensible à ce que vous avez dit là.
Mais là vous parliez par exemple du temps dont l'homme a besoin pour se rendre compte de quelque chose. Je pense à quelque chose de cet ordre-là, mais qui arrive à une femme dans un conte autrichien qui s'appelle « Chez la femme noire » et où il y a une jeune paysanne qui entre au service d'une femme noire qui a un château dans une forêt. Bon, elle entre dans la chambre interdite, évidemment, et du coup, elle est chassée et elle se retrouve dans la forêt. Et là, elle eut besoin d'un temps très long avant que un prince ait un rêve, et il était dit que dans cette forêt, il y avait un trésor très précieux. Et donc, bon, le prince découvre la jeune femme qui a passé tout ce temps à l'intérieur de la forêt et même à l'intérieur d'une grotte. Et la rencontre entre le prince et la jeune femme est tributaire de ce temps de gestation très lent où, dans cette matrice que représente la grotte et dans cette vie végétative où justement la végétation prend tellement de temps pour pousser, eh bien, où elle peut s'ouvrir à l'homme. Et ça, je trouve que c'est c'est un conte qui m'a frappée par rapport à cette, justement, à ce temps qui ne nous appartient pas, mais et où on ne peut pas aller dans une accélération, mais où il faut laisser faire, quoi, comme on dit.
Il faut laisser le temps au temps.
Donner du temps au
temps, exactement. Voilà.
Oui. Je repensais, moi, à ces contes évoqués où un être de l'autre monde, et dans le cas d'une femme, par exemple, qui soit oiseau, soit femme poisson, devient femme, elle devient femme dans le temps de la gestation, c'est-à-dire une fois les conditions posées, ne me demande pas qui je suis, d'où je viens, et tout ira bien entre nous. Il y a le temps de l'enfantement. Il y a toujours de cet amour-là, qui est un amour extraordinaire, qu'on peut se souhaiter à chacun, c'est-à-dire la confrontation à l'autre dans ce qu'il a de plus autre. Eh ben, il y a quand même de l'enfantement, donc de l'espoir, puisqu'ils ont en général des enfants, un ou deux ou plusieurs. Et ça, c'est le temps de la vie quand même.
Voilà. Mélusine, c'était 7 enfants, oui. Si je me souviens bien. Mélusine, chacun marqué par... par l'interdit qui avait transgressé.
Mais aussi, il y a des métamorphoses qui sont de simples caprices. Moi, j'aime beaucoup les contes où, tout simplement, un gars passe, oui, peut-être il est prince, en tout cas, il a du bien, et il a mal parlé à une vieille parce qu'il était mal luné, il avait picolé la veille, ou enfin, que sais-je. En tout cas, on n'explique pas, et j'aime assez ça aussi dans les contes, quand... Prenons l'exemple du gars changé en fourneau de fer chez Grimm. On ne sait pas, il a mal parlé à une vieille un jour, et du coup, elle, de mauvaise humeur, l'a changé en fourneau de fer. Et il faudra qu'une fille souque, enfin, il faudra beaucoup de patience, comme souvent pour les filles dans les contes, pour que le sort soit déjoué et qu'il retrouve une forme humaine. Donc le temps aussi, il a joué son rôle, mais la métamorphose elle-même, elle n'est pas plus qu'une sorte de caprice, de mauvaise fée, de sorcière, on a mal parlé, et puis voilà, bah, tant pis pour toi.
Muriel, non, oui. caprice. Le donateur, nous sommes sous la coupe du donateur qui nous met à l'épreuve. Il a mal parlé à la vieille, alors évidemment, c'était une vieille qui avait l'air ordinaire, et il a eu tort de mal lui parler, mais à l'évidence, alors même si le caprice n'est pas explicité, le donateur, il est quand même, il se présente toujours comme ayant souvent d'ailleurs un don de prédiction et d'une certaine manière...
ça sert, d'accord, c'est toujours utile. Mais je veux dire que la métamorphose elle-même, pourquoi fourneau pour... Bon, alors si on faisait un catalogue des métamorphoses dans les contes, on aurait ce serait extraordinaire d'établir... un jour, moi, j'avais pensé à ça, faire une espèce de dictionnaire comme ça des métamorphoses. Elles sont toutes plus étonnantes les unes que les autres et sans explication au préalable.
Le conteur a souvent beaucoup d'imagination pour ce genre de choses.
Ben, on peut s'y glisser, ça nous laisse de la place en tant que conteur, oui. Et je crois qu'aussi, le conteur est celui qui métamorphose sans cesse le conte. Enfin, c'est pas le sujet de la métamorphose du conteur, mais quand il raconte, enfin, il n'est pas le même que dans la vie de tous les jours aussi. Enfin, ça, c'est un autre sujet, mais
oui,
elle est à l'œuvre aussi, cette métamorphose, oui. Dans l'acte de parole.
Dans l'acte de parole et dans l'acte d'écoute, parce que le conte vous transforme aussi, probablement obscurément, dira madame. On ne sait pas exactement quel clair-obscur en nous ça touche, mais les contes nous transforment. Oui, je crois qu'il y a des contes qui peuvent changer la vie ou le regard sur la vie. Donc la métamorphose, elle est à l'œuvre. Muriel parlait de gestation à l'instant, mais je crois qu'elle est à l'œuvre dans les deux sens.
En permanence.
Ah oui, absolument.
Disons qu'on peut aller même plus loin et dire que notre vie peut être un conte, dans le sens où des événements nous arrivent, où des images s'emparent de nous et qui nous font agir ou être selon l'image qui nous habite de trop. Je pense notamment à l'histoire d'un petit garçon qui avait horriblement peur des loups, comme ça arrive souvent. Et donc, il lui a été conseillé de... Pourquoi est-ce que tu as peur des loups ? Eh bien, parce qu'il va me dévorer, évidemment. Eh bien, si il va te dévorer, c'est parce qu'il a faim, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut lui donner à manger. Alors, on descend dans le frigo, on va voir ce qu'il y a. Déjà, c'était différent. Le petit garçon était dans une dynamique d'accueil et d'apaisement et de jeu. Et ensuite, bon, les peurs se sont atténuées, tout ça. Et très longtemps après, tout d'un coup, rebelote, le petit garçon a horriblement peur des loups. Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu as peur des loups ? Eh bien, je ne sais pas, j'ai peur des loups. Au fil de la conversation, « Ah, tu sais, on s'est bien amusé avec mon copain, on a enfermé une petite copine dans les toilettes et elle ne pouvait plus sortir. »« Ah, et elle avait peur ?»« Ben oui, elle avait peur, comme toi t'as peur des loups. »« Ben oui, alors tu es devenu le loup pour la petite fille. » »« Eh bien, oui. » Du coup, petit sourire, l'enfant était en contact absolument direct avec ce qu'était le loup, ce que le loup incarnait pour lui dans sa propre vie, dans son évolution, dans sa manière d'être. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose justement qui montre que les images de conte, évidemment, la personne qui s'occupait de l'enfant ne pouvait pas l'aider si elle n'avait pas eu toute cette connaissance de ce qu'est le loup dans les contes de fées et entrer dans cette dynamique-là. Mais ce qui était intéressant aussi, c'était cette sorte de prise de conscience tout d'un coup ce qu'en psychologie jungienne on appelle l'ombre, mais l'ombre pouvant être des aspects négatifs de soi-même, mais aussi l'inconnu qui nous habite. Et en fait, une image archétypique comme celle du loup peut nous habiter sans que nous n'en soyons conscients. Et à ce moment-là, comme disait un rêve, on est sous séquestre. Et le rêve disait « le séquestre a été libéré ». Donc souvent l'argent, entre autres choses, peut représenter l'énergie. Donc une énergie est libérée quand l'image archétypique parvient à la conscience. Et c'est aussi le cas dans les contes, me semble-t-il.
Merci beaucoup. Le temps passe. Je vous propose d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous souhaitez approfondir un point qui est peut-être resté obscur dans nos propos. Madame, je vais répéter votre question pour les besoins de la technique. Voilà la question du prince charmant. qui se transforme en crapaud. Et donc la métaphore du prince charmant dans la vie qui se révèle être un crapaud avec le temps.
Madame a dit deux choses importantes. Alors je vais répondre en mon nom personnel et puis chacun répondra à la table. On nous dit que le Père Noël n'existe pas. Je crois qu'on a tort. Je crois qu'on a tort, car je crois, moi, que l'esprit de Noël existe et que l'esprit de Noël, c'est le cadeau inattendu qui, à tout moment, peut survenir, parce que non seulement le pire n'est jamais certain, le pire n'est jamais avéré, mais d'autre part, je crois, alors je suis de ceux qui pensent que à partir du moment où l'on ne croit plus au Père Noël, c'est-à-dire à la possibilité dans la vie de l'irruption de la merveille, eh bien, on perd. Alors, on m'a dit souvent, j'ai souvent entendu, oui, il y a là ce que vous évoquez, c'est-à-dire une illusion mortifère ou périlleuse. Mais je crois qu'on y perd une grande énergie, parce que d'une certaine manière, croire à la métamorphose possible, dans le sens d'une révélation heureuse, c'est déjà une façon de la faire advenir, en tout cas de s'ouvrir à ce qui pourrait advenir. Après, vous parlez du prince charmant qui se métamorphose en crapaud. Alors, vous remarquerez qu'il y a l'autre métamorphose aussi. Il y a le crapaud qui devient un prince charmant. Moi, j'ai tendance à croire que ce qui me semble important, c'est le désir de la quête. La quête, elle peut prendre des formes très diverses. La quête qui nous fait sortir de soi. Muriel disait il y a quelques instants, avant l'enfantement, la rencontre de l'autre, vraiment autre. La quête qui nous amène à sortir de nos frontières. Et cette quête-là, elle peut prendre toutes sortes de visages. Vous remarquerez, puisqu'on parlait hier du conte de Cendrillon, que dans le conte de Cendrillon, moi je ne connais pas de version, en tout cas de version orale, où il nous est dit que Cendrillon veut aller à la rencontre du prince. Non, Cendrillon, elle veut sortir pour aller au bal, pour aller à la messe, pour aller là où quelque chose se passe, là où il y a de la vie et une vie qu'elle ne connaît pas. Elle, c'est sa manière à elle d'explorer le monde. Et cette exploration du monde, elle peut prendre toutes sortes de visages. Alors, à cet égard, moi, ce qui m'intéresse dans la quête du prince, c'est pas la quête du prince, c'est le désir, je reprends Cendrillon, ça sera plus simple, qui l'amène à sortir de ses frontières, à sortir de chez elle, à aller au-devant d'un autre vraiment autre. Et si l'on me dit qu'ensuite les princes charmants se révèlent être des princes charmants en trompe-l'œil ou des crapauds, que la pantoufle de verre se brisera sur la monotonie du quotidien, que nos amours sont mortels, qu'après les nuits d'amour merveilleuses, il y aura des aubes grises, je me dis que tout cela fait partie de la vie et de la danse de la vie. Mais je reste convaincue que la grisaille n'aura pas le dernier mot. Donc moi, ce qui m'intéresse dans le conte, ce n'est pas la métamorphose du crapaud, du prince en crapaud, mais du crapaud en prince. Et je crois que ça, c'est toujours possible, parce qu'on peut aussi passer à côté de splendeurs ignorées alors tant pis, on m'a accusé parfois d'être d'un romantisme cryptique, mais je crois qu'il y a des beautés intérieures très fortes chez les êtres et que nous ne les voyons pas. C'est-à-dire que moi, je crois qu'en chacun de nous, il y a un roi ou une reine, un prince ou une princesse que tout le monde ignore. Et ce n'est pas un crapaud. Enfin, voilà. Alors, c'est un acte de foi.
Moi, je dirais que la qualité du prince, c'est de passer par là. Et s'il ne passait pas par là, rien ne se passerait. C'est tout ce qu'il fait. Il passe par là. C'est déjà pas mal, mais il passe par là.
Non, je ne suis pas d'accord.
Ça donne un côté homme-objet.
Non. C'est un peu une boutade à cause de la boutade du prince et du crapaud. On n'a pas le temps, mais moi, je connais un conte où c'est un homme qui, par amour, se fait grenouille pour une changer en grenouille. C'est pas de sa faute à elle. Encore une fois, ce sont ces caprices-là de celles qui ont le pouvoir, qui, pour des raisons qui ne sont pas nécessairement expliquées, transforment dès la naissance une petite en grenouille, mais lui donne la possibilité de parler. Donc elle a l'humanité, mais la forme d'une grenouille. Je ne vais pas raconter le conte, mais sachez qu'à la fin, cet homme qui aime sa compagnie, quoi qu'elle soit grenouille, quoi qu'elle soit grenouille, eh bien, il va trouver celle par qui c'est arrivé et lui demande la possibilité pour lui de vivre son amour dans la mare en qualité de grenouille. Magnifique. Avec celle qu'il a aimée pour ce qu'elle est.
Oui.
Donc il fallait bien qu'il passe par là quand même.
Oui, mais il ne s'est pas contenté de passer par là.
Mais non, bien sûr.
Voilà, la question de madame m'évoque, pardonnez-moi, un souvenir, mais au fond c'est le fait même, le hasard et le bonheur de l'oral. Et c'est un souvenir qui m'avait beaucoup marqué. Je rentrais un jour dans Paris en venant d'une lointaine banlieue avec une jeune femme fort belle qui conduisait, qui avait accepté de me ramener dans Paris. Et elle avait le téléphone installé dans sa voiture qui lui permettait de conduire, naturellement qui permettait également à la personne à côté d'elle d'entendre les appels. Donc, à peine étions-nous partis qu'une voix d'homme résonne. Allô, ici Édouard. Bon, ah, Édouard, quel bonheur, j'attendais ton appel, etc. Donc, il se donne rendez-vous assez vite. 5 minutes après, le téléphone ressonne. Ah, Edmond, ah, oh, Edmond, ah, oh, merci. Bon, et alors, comme ça, on a eu, le temps était assez, mais il y a eu 5 appels, et elle a répondu aux 5 avec le même émerveillement, dire ah, oh, mais j'attendais. Alors, je dis, écoutez, ça roule pour vous, là, mais expliquez-moi ce que vous faites, parce que moi, j'étais complètement larguée. Et elle me dit, écoutez, comme la plupart des princes, ils ont l'air d'être des princes, mais vu de près, ils se transforment en crapauds, donc je les collectionne en me disant sur le nombre. Voilà. Alors elle était dans la collection en espérant qu'il y avait un vrai prince. Mais ça m'est resté, vraiment, c'était formidable. Et alors la disponibilité, l'énergie, ah ! Alors chacun d'eux avait l'impression d'être l'homme de sa vie, mais lui ne faisait vraiment que passer.
Monique.
Écoutez, moi je dirais que pour Jung, la libido existe évidemment, Eros existe comme étant l'amour, et la libido comme étant aussi bien la pulsion sexuelle que l'élan vital. Donc en fait, il ne cantonne pas Eros a la seule sexualité, mais il l'élargit à cette notion d'élan vital. Et quant à Thanatos, c'est la mort, et dans Jung, on trouve sans cesse ce mouvement de la transformation, un de ses livres de 1910. Déjà, la première version s'appelle Métamorphose de l'âme et ses symboles. La transformation implique automatiquement la mort. Donc, chez Jung, le côté de la transformation en quelque chose d'autre, ou une renaissance ou une résurrection, pour utiliser un langage plus religieux, existe aussi très très fortement, mais comme étant un passage aussi dans un mouvement plus vaste. Donc, je ne peux pas parler au nom de Freud parce que je n'ai pas les compétences suffisantes. Donc, je ne peux pas entrer vraiment dans un débat là-dessus pour opposer ou donner des renseignements sur la vision de Freud. Mais en tout cas, pour Jung, ce problème existe fondamentalement, très très fortement, mais recouvre une réalité qui dépasse les limites ou dans lesquelles Freud s'est inscrit. Je dis limites sans préjugés. Hein. Et chez Jung, c'est aussi très présent, ce côté-là. Il y a toute une série de séminaires qui sont sortis depuis peu, où on voit notamment dans les rêves d'enfants l'importance qu'il accorde à la sexualité. Et c'est quelque chose qui existe aussi chez Jung, mais vécu d'une façon différente. Et disons, je pense que là aussi, il y a quelque chose de foncièrement individuel. Les personnes qui sont attirées par Freud, ça veut dire qu'il y a un écho intérieur qui correspond profondément à cette à cette théorie. S'il y a des personnes qui sont attirées par une analyse jungienne, c'est que en eux, quelque chose réagit au langage de Jung et est bénéfique pour eux. Donc je pense que peut-être, là, ça nous fait sortir des théories et des chapelles, mais simplement, le choix est donné de pouvoir aller d'un côté ou de l'autre.
Merci beaucoup.
Peut-être, on peut quand même, peut-être d'un mot, je ne sais pas si... Mais souligner que, puisque ça a donné lieu à beaucoup de questions et à des débats possibles, que ce qu'il y a de merveilleux avec les contes, moi je parle surtout des contes puisque c'est le matériau privilégié sur lequel je travaille, c'est qu'ils débordent toujours toutes les analyses dans lesquelles on pourrait être tenté de les enfermer. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois infinis, Muriel évoquait très justement la métamorphose du conte opérée par l'artiste qui lui imprime sa marque. Alors ils sont infinis dans la multiplicité des versions qu'on peut en recueillir, mais en même temps il y a une espèce d'épaisseur feuilletée du conte qui fait qu'on peut côtoyer un conte et vivre avec lui et l'analyser et l'aimer et l'explorer pendant des années pour s'apercevoir à un certain moment que quelque chose d'essentiel que le conte avait à nous dire ne nous était pas apparu. C'est-à-dire qu'on n'en a jamais fini avec les vecteurs de la métamorphose.
Oui, et puis la vie et l'humour, parce que là, vous êtes dans une densité très belle. Moi, je ne suis pas jungienne du tout. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est dans La Belle au bois dormant, il la réveille en l'embrassant et elle lui répond « Comme vous vous êtes fait attendre ». Et ça, Eros et Thanatos, voilà, elle a dormi 100 ans, c'est long, mais vous vous êtes fait attendre, comme vous vous êtes fait attendre.
Oui, mais et attends, non, mais, c'est alors, mon prince, oui. Vous vous êtes bien fait attendre.
Oui, d'accord, mais enfin, peut-être un tout minuscule récit rapporté par Kaiwa à propos des rêves, qui est une histoire que j'aime beaucoup. Il faut imaginer une jeune fille qui dort à l'heure chaude de la sieste dans son hamac sur la terrasse d'une hacienda, comme ça, puis tout à coup... À l'heure chaude de cette sieste, sous l'hacienda passe un beau cavalier, il lève la tête et les yeux, il voit la belle endormie dans le hamac, alors il descend de son cheval précipitamment, il se fabrique avec sa chemise une échelle pour grimper jusque sur la terrasse, sans la réveiller, il enlève la belle endormie et puis il la prend dans ses bras, puis toujours à l'aide de l'échelle de soie faite avec sa chemise, il remonte sur le dos de son cheval avec la belle endormie, les voilà qui galopent dans la forêt, elle dort toujours dans les bras du cavalier, puis le cheval s'arrête, et là, il s'arrête où ? Devant une cabane de bois, le cavalier descend de son cheval avec la belle endormie, d'un coup de pied, il pousse la porte de la cabane, là il y a un lit de feuilles chaudes sur lequel il installe la belle endormie, il se penche vers elle délicatement, écarte ses cheveux, ses beaux cheveux longs, il déboutonne sa chemise et il commence à la couvrir de baisers. À ce moment-là, elle se réveille. Et là, elle le repousse. Alors le cavalier recule de quelques pas et regarde la réveillée en lui disant « Mais enfin, après tout, c'est votre rêve. »
La sagesse disait, enfin, ça pourrait être un proverbe, c'est Faulkner, je crois, qui l'a dit le premier, c'est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit.
Merci à tous et très bel après-midi.
Voilà, fin de cette table ronde sur le thème, je vous le rappelle, la métamorphose dans les contes merveilleux. Pour la réécouter, n'hésitez pas à surfer sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci à la compagnie AMSA qui organise le Festival du Légendaire et les Rencontres. Merci également à tous ses partenaires et notamment le Conseil départemental d'Eure-et-Loire qui nous recevait dans les locaux de l'Eure-et-Liom à Chartres.